dans un milieu qui est relativement égalitaire. Parce que si vous avez une famille qui est... D'abord, il n'y a pas de chef, entre guillemets, chez eux. Il y a des chefs de tribu, mais enfin, c'est plus un guide qui aide à prendre des décisions collectives qu'un véritable chef. Il n'a même pas la même envergure qu'un chef de village en milieu agricole africain. Mais quand vous avez quelqu'un qui a certains moyens, c'est-à-dire son cheptel se porte bien, il a beaucoup d'animaux. Il faut savoir qu'il y a un rapport entre la taille du troupeau et le nombre de membres de la famille, parce que le troupeau demande du travail. Il faut s'en occuper. En même temps, si on a un certain nombre de personnes, il faut un certain cheptel pour vivre, pour avoir du lait, pour amener des animaux sur le marché et avoir des céréales.
Trouver le juste équilibre.
Il y a un équilibre. Celui qui dépasse cet équilibre, qui se retrouve relativement riche, à la limite, ça peut être un encombrement. Par contre, il y a des gens qui ont eu moins de chance. Ils ont fait des choix différents à la dernière sécheresse et ils ont fait les mauvais choix. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Ouais. Ok, ils ont plus assez de bétail. Donc il y a des systèmes de redistribution. On prend des bêtes, on les leur prête. C'est un prêt qu'on remboursera dans je ne sais pas combien d'années avec un autre animal. Et puis que généralement, on ne rembourse même pas. Voilà. C'est un lien. C'est un lien qu'on établit avec cette personne. Et des fois, c'est à l'intérieur du même lignage familial, donc des grands lignages, ou bien alors c'est des fois carrément à l'extérieur. Oui, parce qu'en fait, les gens sont obligés de prendre en charge les pauvres. Et on ne peut pas les laisser sur le bord du chemin. Donc, quelque part, on a plutôt intérêt à ce qu'ils se redressent et qu'ils soient autonomes.
Société qui se modernise aussi en Afrique avec des villes de plus en plus grandes, ça reste quand même cet esprit de partage comme ça.
Alors ça reste, vous avez toujours un gros noyau de gens dans ces groupes ethniques qui restent en brousse et qui continuent de vivre de la même façon, plus ou moins. Il y a des améliorations, il y a des fois des pertes aussi de certaines pratiques. Ça évolue, ça se modifie, de toute façon rien n'est jamais statique. En ville maintenant, beaucoup de nomades se retrouvent en ville parce que les nomades ont aussi une démographie, c'est clair. C'est pas forcément parce qu'ils ont perdu leur troupeau et qu'ils sont dans la misère, c'est aussi parce que les gens sont de plus en plus nombreux, donc ils peuvent pas tous s'insérer dans le système. Il faut maintenant aller un peu se débrouiller dans d'autres choses. Alors, chez des populations comme ça, le lien reste très très vivant.
Ils restent même en ville, même quand ils sont en ville, ce lien.
Ah ouais. Restent en ville. Ouais. Alors maintenant, ils sont souvent en ville, ils n'ont plus de bétail, ils font autre chose. Mais ils gardent les liens avec le clan familial, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de choses comme ça.
Parce que souvent, la ville le rend solitaire.
Ouais, la ville elle a un drôle d'effet sur les gens. Et l'isole, c'est vrai, je pense que vous avez raison, l'isole.
On se permet, hein, Roland, parce que voilà, on a cette chance de rentrer chez les gens et donc évidemment d'observer ce qu'il y a autour de nous. Un livre de Noam Chomsky.
Oui.
Ouais. Ce qui est passionnant, c'est qu'on est chez le berger, passionné du troupeau, de cette, j'ai envie de dire, vie en plein air. Mais tout le monde ne s'attendrait pas à avoir une telle bibliothèque, un tel attrait pour le savoir et la lecture. Qu'est-ce qui vous a attiré vers les livres ?
Je crois que c'est plutôt l'inverse, en fait. Ce serait plutôt les livres ou la curiosité, dans le sens très large du terme, qui m'a amené à vouloir faire ce métier. Ouais, je crois. Parce que je pense que c'est dans l'enfance que les rêves de vie se créent.
Rêves de quoi ? De voyage, de...
Alors, de voyage, oui, ça c'est sûr. Bien sûr. Et puis, alors des récits de voyageurs, bien sûr. Ça, c'est clair. Jules Verne et tout ça. Et puis, je me souviens d'avoir vu passer la transhumance dans mon village, à Courtedoux, quand j'étais tout petit.
Okay. Voilà.
Et ça, c'était... je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'étais vraiment petit. Ce vieux berger avec sa grande barbe blanche, là, puis un chapeau, il était assez... Il avait le style qu'on imagine généralement, pas comme moi.
Hein. Encore que. Vous avez pris un peu le travers africain avec les dreads, mais...
Oui, et puis bon, après, j'étais toujours attiré par... J'ai travaillé chez les paysans quand j'étais gosse. J'aimais beaucoup aller chez les paysans. L'alpage sur Fribourg aussi, l'alpage sur Fribourg, comme que je vous dis. Après, quand j'ai voyagé, le spectacle de ces grands troupeaux, le peuple Touareg, surtout dans le nord du Mali.
Et comment on se fait au Sahara ? Moi, je croyais qu'il fallait y être né pour
prendre un chapeau. Un turban, en fait. Ouais. c'est plus adapté. Ouais. Je ne sais pas comment on s'y fait. Bah, d'abord, il faut aimer ça, parce qu'il faut beaucoup de patience. Bah, les distances sont très longues. Quand vous allez d'un point à l'autre, c'est loin. Hein? Donc on est dans des dimensions absolument... Moi, j'ai travaillé la commune sur laquelle j'ai travaillé dans mon dernier emploi au Niger, donc jusqu'en 2009. La commune était grande comme la Suisse romande. Et il y avait 20 000 habitants. Et puis, il y a toute la vie des gens. C'est des gens très, très attachants. Très, très rudes, mais très attachants. Je sais pas, c'est magnifique, quoi. Leur langue, c'est comme une musique.
Dans quel état d'esprit vous êtes revenu en Suisse, alors ?
Ben, je suis revenu en Suisse parce qu'en fait, je ne pouvais plus faire mon travail comme j'aimais le faire. D'abord, la zone proprement sahélienne, la zone du grand nomadisme, avec les problèmes ou les faux problèmes des islamistes. La situation de guerre, quoi, ouais, et d'enlèvement, etc., etc. Bon, surtout, c'est l'époque où on a toute une tripotée de managers, commerciaux, comptables qui ont pris le pouvoir dans les ONG. Vraiment, le travail devenait très, très, très difficile, avec une mentalité qui poussait à l'ultralibéralisme.